Une interpellation qui tourne au fiasco. Le commandant Charcot se lance alors dans une enquête dangereuse et éprouvante, en dehors de tout cadre légal. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille et à vous confronter au pire de la nature humaine. La faille de Franck Tillier est disponible aux éditions Pocket.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire du crime presque parfait de Georges Pierrou et Grit Bergman. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document d'Anya Subschmann, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute.
Je lui dis qu'elle est passée aux aveux. Je lui donne quelques éléments. Et après, je lui dis, qu'avez-vous à dire ?
Cette fois, Pierrou est coincé. Il reconnaît qu'il a bien porté le coup mortel avec la barre de fer.
La barre a exercé une forte pression sur son cou. Et j'ai entendu clairement un craquement que j'ai ressenti à travers la barre comme un os qui se casse.
Il a tué, c'est vrai, mais Pierrou a une bonne excuse. L'entrepreneur allemand était, dit-il, un sale type. Il a humilié sa femme, il ne l'a jamais payée pour son travail à ses côtés. Ce qu'il voulait, c'est tout simplement reprendre leur argent. Peu à peu, les gendarmes reconstituent la scène. Une fois Trosnotov tué, le couple a appliqué son plan, maquillé l'assassinat en suicide, mais ce fut plus compliqué que prévu.
La victime, Trosnotov, c'est un homme qui fait à peu près 1m85 et qui doit faire 120 kg. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez corpulent et difficile à déplacer. Georges Pierrou n'a pas la force pour le soulever. Donc il assoit sur le canapé. Et là, ils vont nouer le faire un nœud et ensuite lâcher tout simplement le corps depuis le canapé. C'est pour ça qu'on retrouve Trosnotov en position semi-assise.
Puis il a fallu tout nettoyer, et c'est Grit Bergman qui s'en est chargé. Mais avec beaucoup de zèle.
Grit Bergman nous dit qu'ils avaient des chaussettes en surchaussures pour ne pas laisser de traces.
Ils vont aller jusqu'à prendre les tasses dans lesquelles tout le monde avait bu le café et emmener les tasses.
Trosnotov n'est pas torse nu à ce moment-là. Il porte une chemise. Grit Bergman lui a enlevé la chemise pour que les traces disparaissent, évidemment.
Ils vont rester quand même pendant quelque chose, je crois c'est 1h30 ou 2h, à nettoyer intégralement l'appartement. Le corps, je ne sais pas si on se rend compte de la scène, le corps est pendu. Elle, Grit Bergman, c'est quand même son ancien compagnon. Avec qui elle a vécu, avec qui elle a travaillé.
En partant, le couple s'est arrêté sur la place du village pour poster deux lettres contenant le testament. L'une à l'adresse de Grit Bergman et l'autre pour un notaire de Monaco.
En cours de route, ils vont se débarrasser et de la barre de fer, et de la chemise tachée de sang, et de la tasse, etc. Et ils vont rentrer chez eux, de mémoire, non sans être allés manger quand même un petit morceau chez KFC, parce qu'a priori, ça n'avait pas l'air de leur avoir coupé l'appétit.
Dominique, Georges Pierrou et Grit Bergman sont donc tous les deux mis en examen pour assassinat. Est-ce que devant la juge, ils réitèrent leurs aveux ?
Oui, Christophe. Lui avec des regrets appuyés, et elle avec une nouvelle crise de larmes et de vomissements, et tous les deux sont écroués à la maison d'arrêt de Nice.
Donc cette fois-ci, la juge va pouvoir les renvoyer devant une cour d'assises.
Alors, après quelques rebondissements, parce que peu de temps après qu'ils sont arrivés à la prison, la juge d'instruction reçoit un appel d'une surveillante pénitentiaire qui lui dit « Voilà, Pierrou m'a remis un gilet en laine » en me disant qu'il lui avait été adressé par erreur en prison parce qu'il était destiné à sa femme. La surveillante pénitentiaire consciencieuse, elle fouille le gilet et elle trouve dans une poche une paire de chaussettes. Et dedans, elle trouve un tout petit mot. Alors le voilà, ce petit mot. Hein.
Ah oui, c'est écrit serré.
C'est écrit serré. Et c'est écrit en anglais. Alors voilà, la juge le fait traduire. Voilà ce que dit ce petit mot. Début septembre 2011, deux Albanais ou Turcs sont venus à Esperaza pour nous demander d'établir le testament Notov pour Griti. Ce sont eux les coupables. L'un d'eux s'appelle Duran. Ils voulaient récupérer leur argent. Ils nous ont demandé d'acheter la corde, la barre métallique et du film plastique. Et si on le disait à la police, ils nous tueraient.
On dirait que Pierru souffle une nouvelle version des faits à sa femme pour qu'il soit sur la même longueur d'onde face à la juge.
C'est un scénario. Et c'est pas tout. Parce que des lettres anonymes, plusieurs, vont arriver sur le bureau de la juge. Des lettres qui clament l'innocence du couple Pierru-Bergman et qui accusent de mystérieux hommes en noir venus de l'Est. Ils n'ont pas écrit le testament, ils sont innocents. Pierru et Grit ne pas tuer Notov. Il est tué par Duran, Karim, Kozar et Ramadjak. Les coupables sont dehors. Alors les gendarmes vont devoir vérifier tout ça. Ça va leur prendre un temps fou. Et ils vont finir par s'apercevoir que c'est Pierru qui a demandé à des co-détenus de poster ces lettres depuis l'extérieur.
À la maison d'arrêt de Nice, quelques semaines à peine après son arrestation, Georges Pierru tient désormais un discours très différent de celui de la garde à vue.
Maître Julien Darras assure la défense de Georges Pierru.
Je rencontre un homme qui est extrêmement inquiet, qui est désemparé et qui clame son innocence.
Danny Borgo mène l'expertise psychologique de Georges Pierru.
Il dit qu'il avouait des choses en garde à vue pour faire plaisir aux gendarmes, parce qu'on lui a mis la pression, etc. Et il me sort un récit qui est de l'ordre de la confabulation infantile. Il y a des gens qui sont venus chez eux pour les menacer, pour faire écrire sous la contrainte un faux testament par Madame Bergman, voilà, en disant qu'il fallait dire ceci, ceci, cela, quelque chose qui est complètement invraisemblable et qui n'est absolument pas crédible si on a plus de 5 ans d'âge mental.
Au tribunal de Nice, c'est l'heure de la confrontation dans le bureau de la juge d'instruction. Face à face, Grit Bergman et Georges Pierru se retrouvent pour la première fois depuis leur arrestation. Mais la solidarité du couple se fissure.
Grit Bergman est accompagné de son avocate, maître Sabria Mosba.
Et lui, persuadé qu'elle allait le soutenir parce qu'il avait encore tenté de lui faire passer un message peu de temps avant. Donc il se lance en premier dans ses explications, mais elle se désolidarise de cette théorie folle des hommes de l'Est qui les auraient contraints à tuer M. Notov pour éponger une dette.
Ils sont plus sur la même longueur d'onde à la confrontation, c'est certain. George est toujours amoureux de Grit, Grit n'est plus amoureux de George.
Et donc c'est la rupture, puisqu'elle va me demander de mettre en œuvre une procédure de divorce. C'est la rupture sur tous les plans, juridique, relationnel. Leur couple a explosé en plein vol.
Pire, désormais l'Allemande accuse son mari. Et elle raconte à tout le monde qu'elle n'a fait qu'obéir.
Elle a un rôle vraiment de petite main. Donc Pierru a tout pensé, tout imaginé. Préparer des gants, des chaussettes. Elle avait pour mission à un moment donné de monter à l'étage pour chercher certaines choses et puis procéder au nettoyage de la pièce où avait eu lieu la lutte.
Elle va charger la responsabilité de Georges en indiquant et en déclarant que finalement c'est lui qui est à l'origine de tout et qu'il a tout fait et qu'elle finalement c'est une victime.
Oubliez la soi-disant vengeance contre Drost l'exploiteur. Grit charge Georges à fond. Cet assassinat, c'est lui.
En novembre 2018, 7 ans après la mort de Drost Notov, le procès de Georges Pierru et Grit Bergman s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Des accusés dont on peut tout attendre. Vont-ils réitérer leurs premiers aveux? S'enferrer dans leurs théories rocambolesques? Qui craquera le premier? Et surtout, qui a fait quoi?
Le procès d'une sordide affaire d'assassinat a commencé aujourd'hui à Nice. Un couple est soupçonné d'avoir maquillé le meurtre d'un ressortissant allemand en suicide en 2011 à Aise.
À l'ouverture du procès, la mort de Drost Notov fait la une, pour la première fois. En fait, la presse découvre cette affaire et elle passionne tout de suite Christophe Perrin, l'incontournable fait diversier de Nice Matin. Un assassinat camouflé en suicide pendant des années, pas courant.
Cette affaire est entourée du plus grand secret pendant de nombreuses années. Le secret de l'instruction a été très bien gardé. On n'a quasiment rien fait avant le procès. C'est ce qui est assez étonnant dans un fait divers aussi spectaculaire.
Georges Pierru, 52 ans, Grit Bergman, 48, en plein divorce, à nouveau réunis dans le box pour 6 jours de procès.
Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que dès que Georges est rentré dans le box, il a porté son regard sur Grit Bergman.
On sent que Georges Pierru est encore amoureux de Grit. Et d'ailleurs, il montre le tatouage de son prénom. Il a fait tatouer son prénom sur son bras. Il essaie d'échanger des regards avec elle, alors qu'elle est complètement hermétique. Elle est fermée. Elle ne le regardera jamais pendant les débats. Elle a l'air souffreteuse. Elle est toujours en train de manipuler des mouchoirs en papier. Enfin, on sent qu'elle est très très mal de se retrouver dans le box des accusés.
Madame Bergman, levez-vous. Dans le box, longs cheveux blonds, fines lunettes, pull d'un blanc immaculé, l'Allemande baisse les yeux.
L'ami d'enfance de Drosnotov, Alfred Wings, est présent au procès.
J'avais besoin de voir Grit encore une fois, pour que je puisse aussi en finir avec elle. Et de cette belle femme éloquente et gentille avec les enfants, il ne restait plus grand-chose au tribunal de Nice. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux.
Pour Georges Pierru et Grit Bergman, l'enjeu est immense. Ils risquent tous les deux la perpétuité. Et après 3 ans de comédie et de déclarations contradictoires, nouveau revirement. Fini le temps des aveux. Les accusés contestent l'assassinat. De nouveau sur la même longueur d'onde. De nouveau enfermés dans leurs mensonges. Retour à la case départ. Mais le président de la cour d'assises est bien décidé à obtenir des aveux circonstanciés.
Le président sent que Georges Pierru va craquer, donc forcément il se focalise sur lui.
En lui disant « Allez-y, il est peut-être temps de vous libérer de ce poids que vous avez sur les épaules. »
Il sent que c'est le maillon faible du couple.
Son fils, venu le soutenir à la barre, ne comprend pas. Il veut lui aussi connaître la vérité.
C'est pas un père violent, il a jamais été violent avec personne d'ailleurs. C'est un père aimant, c'est un père, un grand-père aimant aussi parce que j'ai 2 enfants. Et pour moi, ça paraît improbable ce qui se passe.
Ils vont le supplier de dire la vérité à la cour d'assises. Ils vont lui dire aussi que si jamais il avoue le meurtre, c'est pas grave.
Silhouette massive, Georges Pierru semble tout près de s'évanouir.
Mentir dans une salle, c'est possible si ses enfants ne sont pas là. Mais mentir en la présence de ses enfants, pour lui, c'est impossible.
Le lendemain, Georges Pierru demande la parole au président de la cour.
Son avocat Julien Darras se souvient de ce moment.
Pas simple d'avouer un assassinat devant une salle remplie. Il va se donner du courage, il va s'accrocher à la vitre du box. Il va se tenir, je le vois parce que je le regarde. Et il va tout avouer. Là, à ce moment-là, il est dans l'authenticité. Il n'y a plus de calcul, il n'y a plus rien.
Le magistrat vole à son secours.
Il lui suggère même quelques hypothèses de son comportement, lui disant « Mais est-ce que vous n'avez pas été instrumentalisé? Est-ce que vous n'avez pas été aveuglé par l'amour que vous portiez à cette femme ?»
Alors l'artiste accuse. « Cette femme m'a fait perdre le sens des réalités. Elle a fait de moi une image que je ne suis pas. Je n'ai pas de méchanceté. » Pour la défense de Georges Pierru, c'est elle, l'Allemande, la femme machiavélique.
En revanche, il a aidé. Il a aidé, il a participé, et puis il a accepté de faire tout ce que lui a demandé Grit Bergman. Georges, il n'a pas un parcours de vie très enchanteur, donc c'est vrai que quand il tombe sur cette femme qui est belle, qui est jolie, et qui lui dit que c'est le Picasso du 21e siècle, on peut difficilement ne pas tomber sous son charme. Elle va le manipuler, elle va le flatter.
C'est la nouvelle stratégie de Georges Pierru, de se dire, bon, j'avoue, mais en la chargeant, peut-être que je peux amoindrir ma peine.
Le couple se déchire devant la cour d'assises. Grit Bergman, en larmes, avoue aussi, du bout des lèvres.
Madame Bergman dit que c'est Monsieur Pierru, et Monsieur Pierru dit que c'est Madame Bergman.
Grit, la femme effacée qui vomissait dans le bureau des gendarmes lors de ses aveux, a-t-elle tout fomenté ? À la barre, l'expert psy vient à son secours.
Dany Borgogno.
Le terme de manipulatrice, c'est pas ce qui vient premier quand on la voit à l'examen psychologique. Elle sent plus être à la remorque des faits, à l'avoir rencontré des personnalités comme M. Notoff et M. Pierru. Vraiment, on a la sensation que ça a été le numéro 2 dans l'histoire.
L'avocate essaie, elle aussi, d'adoucir l'image de sa cliente. Elle raconte une Grit solitaire, sans famille, isolée dans un pays dont elle ne parle pas la langue. Une femme blessée par sa rupture avec Drost, son ancien amour, et frustrée par sa nouvelle vie avec Georges Pierru.
Lui s'est vendu comme étant un artiste qui montait sur la toile, qui avait une cote, comme on dit dans le milieu artistique, importante. Puis elle s'est rendue compte de la réalité de ses œuvres. Ça a été peut-être la déconvenue quand elle s'est rendue compte que c'était un loser. Mais le temps passe, les ventes ne se font pas, il y a des factures à payer, le quotidien à gérer. Est-ce que c'est à ce moment-là que l'un ou l'autre, ou les deux, ont pu imaginer l'impensable ?
Au dernier jour du procès, l'avocat général refuse de trancher. Impossible de dissocier ce tandem criminel, ces deux novices qui agissent comme des professionnels avec un seul mobile, l'argent. Et qui n'ont ni regrets, ni remords.
Le journaliste de Nice Matin, Christophe Perrin, observe avec attention.
Ce qui est très étonnant, je trouve, chez eux, c'est le sang-froid dont ils ont fait preuve, même jusqu'au début du procès, parce que finalement, ils n'ont quasiment pas commis d'erreur. C'était quasiment le crime parfait, hormis effectivement le bornage des téléphones.
Un crime presque parfait, mais beaucoup trop grand pour les épaules d'une femme blessée et d'un peintre raté. Deux assassins qui semblent dépassés par leur forfait. Plus clémente que l'avocat général, la cour d'assises leur épargne la perpétuité. Ce sera 25 ans de réclusion criminelle pour chacun d'entre eux. Georges Pierru et Grit Bergman ne feront pas appel. Et on ne saura sans doute jamais pourquoi ils s'en sont pris à Drost Notoff. Une victime qui, si l'on en croit Grit Bergman, n'aura pas eu le temps de comprendre non plus. Was bedeuten das? Qu'est-ce que ça signifie? Ce seraient les derniers mots prononcés par Drost avant de mourir.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à l'histoire du crime presque parfait de Georges Pierru et Grit Bergman. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes. Ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV, raconté par Dominique Rizet.